experience the world premiere of Flora, a powerful story of resilience and renewal, presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration takes you on a journey through the evolution of Australian flora, bringing together artists drawn from two of Australia's leading dance companies. Flora promises to be unmissable. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
On passe au journal. D'abord les titres de ce mardi. La Reserve Bank s'apprête à annoncer sa décision concernant les taux d'intérêt cet après-midi à 14h30, heure du littoral est. Les marchés monétaires et la majorité des économistes anticipent une hausse du taux directeur à 4,1%. Un analyste énergétique lance l'alerte sur la grande vulnérabilité de l'Australie due à ses faibles réserves de carburant. Et puis l'heure aux tractations après les municipales de dimanche en France. Et on passe au journal. La Reserve Bank en Australie s'apprête à annoncer sa décision concernant les taux d'intérêt cet après-midi à 14h30. Les membres du conseil d'administration se réunissent depuis deux jours pour la première fois depuis les frappes américaines et israéliennes en Iran qui ont provoqué une flambée des prix du pétrole. La Reserve Bank a relevé son taux directeur à 3,8% lors de sa réunion de février contre 3,6% auparavant. Les marchés monétaires et la majorité des économistes anticipent aujourd'hui donc une hausse du taux directeur à 4,1%. Le président américain Donald Trump fait pression sur plusieurs nations pour qu'elles envoient des navires de guerre afin de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. L'OTAN, l'Australie, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays d'Asie ont déclaré ne pas être disposés à répondre à l'appel de Donald Trump concernant l'envoi de navires dans le détroit. Donald Trump a déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche que son pays avait protégé cette voie maritime vitale depuis des décennies et qu'il estimait que les autres pays devraient en faire davantage.
You could say we did it out of habit, which is not a good thing to do. But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. But it always amazed me that we did it. We never asked for reimbursement. And it was really there to serve other countries, not us.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne affirme qu'il n'y a aucune volonté d'étendre la mission navale de l'Union européenne en mer Rouge pour contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz. Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de 40 à 50% suite aux attaques iraniennes contre la navigation dans le détroit. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, indique que les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Bruxelles pour discuter des demandes de Donald Trump concernant l'envoi des navires afin de dégager le détroit d'Ormuz.
For the time being, there was no appetite in changing the mandate of the operation Aspides for now. While the Strait of Hormuz is at the center stage, the Red Sea also remains critical. The risk that Houthis get involved is real, so we must remain vigilant.
Et puis un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères affirme que la Chine n'est pas intéressée par aucune implication militaire dans le détroit. Le président Trump s'est dit insatisfait de la réponse du premier ministre britannique à sa demande d'assistance tant pour les premières frappes contre l'Iran que pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Keir Starmer a déclaré aux journalistes avoir discuté de cette voie maritime avec le dirigeant américain dimanche et a depuis affirmé ne pas souhaiter que le Royaume-Uni soit entraîné dans un conflit plus large au Moyen-Orient. Donald Trump a accusé le Premier ministre de dépendre excessivement de ses conseillers et de refuser de prendre des décisions de manière autonome. L'armée israélienne affirme avoir déployé des renforts terrestres au Liban dans le cadre d'une opération limitée et ciblée contre l'infrastructure du Hezbollah dans le sud du Liban. De fortes explosions ont retenti à Beyrouth alors qu'Israël lançait de nouvelles attaques sur la capitale libanaise avant l'aube. On craint qu'Israël ne prépare une invasion de grande ampleur au Liban. Et puis les autorités libanaises annoncent que le nombre total de personnes déplacées a atteint plus d'un million, soit 1 049 328 personnes. Israël a averti que les Libanais déplacés, chassés de leur foyer par son armée, Tsahal, ne pourraient pas rentrer chez eux tant que la sécurité des Israéliens vivant près de la frontière ne serait pas garantie. Le Liban a été entraîné dans le conflit au Moyen-Orient le 2 mars lorsque le Hezbollah a ouvert le feu sur Israël, affirmant vouloir venger l'assassinat du guide suprême iranien. Israël a riposté par une offensive qui a fait plus de 800 morts au Liban et forcé plus de 800 000 personnes à quitter leur foyer. Un analyste énergétique alerte sur la grande vulnérabilité de l'Australie due à ses faibles réserves de carburant. L'Australie ne dispose que de 30 jours de consommation d'essence, de diesel et de kérosène et est le seul pays membre de l'Agence internationale de l'énergie à ne pas détenir la réserve obligatoire de 90 jours. Kevin Morrison, analyste énergétique à l'Institut d'économie de l'énergie et d'analyse financière, affirme que l'Australie est vulnérable.
We've kept a stockpile to a minimum, and so we've got this double problem of dependent on oil imports at the time that we really had inadequate stockpiles. And so this is why Australia could be one of the most vulnerable in this current energy crisis.
Hier, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a convoqué une table ronde sur la sécurité d'approvisionnement en carburant. Le Premier, Chris Minns, a déclaré qu'à ce stade, il ne voyait pas la nécessité de recourir au pouvoir d'urgence pour préserver les stocks de carburant.
The public would expect us to take steps if we're in a dire situation. We're not there yet. And this is really about getting ready for the weeks ahead, given we don't know what the geopolitical conflict situation in the Persian Gulf will be or when it will be solved or stopped or ended.
L'heure aux tractations après les municipales de dimanche en France. Le point avec Marion Cazanov pour Radio France Internationale.
L'heure des calculs et des alliances. Les tractations se poursuivent après le premier tour des municipales. Certains candidats décident de fusionner leurs listes pour s'assurer plus de chances de victoire dimanche prochain lors du second tour. Cela veut dire parfois s'allier avec la gauche radicale, c'est-à-dire le parti La France Insoumise. C'est le cas par exemple à Strasbourg, à Limoges, à Clermont-Ferrand ou à Brest. Mais pour d'autres, hors de question de fusionner avec LFI. À Marseille, le socialiste Benoît Payan a refusé la main tendue de Sébastien Delogu. Il prend ainsi le risque de voir l'extrême droite arriver deuxième lors du premier tour, s'emparer de la deuxième ville de France. Les Marseillais se préparent donc à un possible séisme politique. Au niveau national, la participation au premier tour s'élevait à 57,17%. On a parlé des alliances de la gauche, il y a aussi celle de la droite. Largement distancée par Emmanuel Grégoire au premier tour, Rachida Dati n'avait pas le choix. Pour rebondir, elle devait faire équipe avec Pierre-Yves Bournazel. Le candidat centriste arrivé quatrième aurait pu se maintenir au second tour. Il s'est donc désisté après une journée de négociations. Et les candidats qualifiés pour le second tour ont jusqu'à 18h, heure de Paris, pour présenter une nouvelle liste.
18h donc ce mardi. Et puis à Marseille, le maire de gauche, Benoît Payan, partira tout seul pour le second tour. Il a obtenu 36,7% des votes dimanche. Le Rassemblement national a obtenu 35% des votes. Aurélien Devernois pour RFI.
Il n'aura pas laissé le temps au doute ou à la contestation de s'installer. Après avoir dès hier soir repoussé toute alliance avec la France Insoumise, Benoît Payan a été le premier des qualifiés pour le second tour à déposer sa liste en préfecture ce matin.
Nous entrons cette semaine dans le plus grand combat que cette ville n'ait jamais connu face au Rassemblement National. Face à ça, il faut de l'union, de la clarté et du rassemblement.
Mais pas avec la France Insoumise, dont le candidat Sébastien Delogu ne cache pas son amertume et sa colère.
Marseillaise, Marseillais, Benoît Payan vient de déposer sa liste en préfecture et refuse tout front commun pour battre l'extrême droite à Marseille. Cette position, vous l'entendez, est irresponsable.
En face, le candidat du RN, Franck Alizio, y voit forcément une opportunité et lance un appel à la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal.
Évidemment qu'il faut continuer à ouvrir les bras, à tendre la main. C'est ce que je fais auprès de la droite sincère, y compris Madame Vassal, évidemment.
Sans succès, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille annonce dans l'après-midi par un communiqué son maintien au second tour. Il y aura donc bien 4 bulletins de vote différents dans les bureaux marseillais dimanche prochain et le suspense s'annonce immense.
En Iran, le ministère iranien des Affaires étrangères se dit fier des 5 joueuses de l'équipe féminine de foot qui ont décidé de retirer leur demande d'asile en Australie. Seules 2 joueuses de l'équipe se trouvent encore en Australie après l'octroi de visa humanitaire aux 7 autres membres arrivés pour la Coupe d'Asie. Aucune raison n'a été donnée quant à leur retour en Iran, mais des sources affirment qu'elles ont subi des pressions concernant la sécurité de leurs proches. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baghaei, a déclaré que les autorités iraniennes se félicitaient de cette décision.
We take pride in our women footballers who did not fall for the hypocritical temptation of Australian officials.
En Australie, la candidate libérale en lice pour le siège de Farah affirme que la hausse du coût de la vie est une préoccupation majeure pour les électeurs de la circonscription. L'avocate et conseillère municipale Raissa Butkowski est l'une des 6 candidates ayant confirmé leur candidature à l'élection partielle du 9 mai prochain. Parmi les autres candidats figure l'homme d'affaires David Farley, candidat du parti One Nation, et l'ancien commandant militaire Brad Robertson, candidat du Parti national en campagne à Albury, Raissa Butkowski, exhorte les électeurs à adresser un message clair au gouvernement fédéral en votant pour le Parti libéral.
We have families who are struggling with the cost of living. We have farmers who are dealing with significant uncertainty, and we also have a local health service that needs fixing. This by-election is also about sending a message to Labour that we need to hold them accountable.
La ministre en chef du territoire du Nord, Lia Finocchiaro, affirme que les fonds d'aide aux sinistrés actuellement disponibles ne suffiront pas à financer la reconstruction une fois la crise des inondations terminée. Elle s'est rendue hier à Canberra avec le ministre des Finances du territoire, Bill Yann, afin de plaider en faveur d'un financement supplémentaire. La ministre en chef estime que le coût total de la reconstruction pourrait se chiffrer en dizaines de millions de dollars.
Once we move to recovery phase, we know that that disaster relief funding, that 50-50 spend by the federal and territory governments is going to be important, but it won't be enough. And so we will be putting forward over the coming days what our plans are.
La police met en garde les automobilistes contre les voleurs de voitures qui utilisent des dispositifs de clonage de clés pour contourner les systèmes de sécurité. Dans l'état du Victoria, la police indique que ces dispositifs servent à voler environ 30 voitures par jour. Le commissaire adjoint de police, Bob Hill, conseille aux automobilistes de se rendre chez leur garagiste pour faire installer un antivol empêchant le branchement d'un dispositif de reprogrammation. Une dépression tropicale se renforce dans la mer de Corail et présente un risque élevé de se transformer en cyclone tropical en se dirigeant vers l'extrême nord du Queensland. Les météorologues surveillent le déplacement vers l'ouest de ce système depuis les îles Salomon suite à une évolution des modèles informatiques qui étaient auparavant incohérents. Le bureau de la météo prévoit que la tempête traversera la péninsule du Cape York au nord de Cooktown entre jeudi et vendredi matin. Les habitants de l'extrême nord du Queensland se préparent à l'impact potentiel du cyclone tropical Narelle en fin de semaine.
Experience the world premiere of Flora, a powerful story of resilience and renewal, presented by the Australian Ballet and Bangarra Dance Theatre. This bold new dance collaboration takes you on a journey through the evolution of Australian flora, bringing together artists drawn from two of Australia's leading dance companies, Flora promises to be unmissable. Journey through our living history in this unique dance experience. Visit australianballet.com.au.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 35 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 21. Hobart, 22. Canberra, 25. Sydney, 31. Brisbane, 29. Darwin, 31. Et à Alice Springs, un maximal de 26 degrés. Voilà, fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.